VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en direct de Washington, vendredi 10 août 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel. Au sommaire ce soir, présidentiel au Mali, c'est la fin de la campagne aujourd'hui pour un second tour prévu dimanche. Au Niger, les inondations ont déjà fait des dizaines de morts et une épidémie de choléra est déclarée dans la région de Maradi. Au Zimbabwe, l'opposition a déposé son recours pour contester les résultats de la présidentielle. Et puis, cet assaut des talibans à Ghazni en Afghanistan, les échanges de tirs ont duré plusieurs heures. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord, le journal. En Mauritanie, des assaillants ont été tués aujourd'hui lors d'une attaque contre une patrouille à la frontière nord-est avec le Mali. C'est ce que rapporte l'armée mauritanienne qui compte également 2 soldats blessés. D'après l'armée, cet assaut a été mené par des ennemis infiltrés, survenus à un point situé à l'extrême nord de la frontière mauritano-malienne. République démocratique du Congo, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rencontré son homologue congolais Joseph Kabila pour une visite de travail ce vendredi à Kinshasa. Monsieur Kabila n'est pas candidat à sa propre succession. La coalition au pouvoir sera représentée par Emmanuel Ramazani Shadary. 23 dossiers de candidature ont été déposés. Il reste à la CENI de proclamer la liste des candidats retenus dans la course à la présidentielle du 23 décembre. De leur côté, les partisans de l'opposant en exil, Moïse Katumbi, disent avoir saisi le Conseil d'État après la tentative de leur leader de rentrer dans le pays pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Par ailleurs, 12 civils ont été tués dans des affrontements entre 2 groupes armés à Kalungu, dans l'est de la RDC. Un responsable local affirme que les combats, qui durent depuis 5 jours, opposent le NDC rénové de Guidon et les APCLS coalisés au Niatoura. Le gouvernement ne fait rien, a déploré le président de la société civile locale. Toujours en RDC, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait 10 morts dans l'est du pays selon un nouveau bilan du ministère de la Santé. Les autorités sanitaires ont entamé des vérifications sur les causes du décès des 27 autres personnes pour déterminer si elles ont été atteintes par le virus Ebola. Il s'agit de la 10e épidémie d'Ebola en RDC. Les Maliens retournent aux urnes dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé largement en tête au premier tour, fera face à l'opposant Soumaïla Cissé. On fait le point avec Abdourahmane Dia.
Le vainqueur de ce second tour aura la lourde tâche de sécuriser un pays en proie à des attaques djihadistes récurrentes. Le prochain président, qui entrera en fonction début septembre, devra aussi relancer l'accord de paix conclu en 2015 entre le gouvernement et l'ex-rébellion à dominante Touareg dont l'application tarde. L'opposant Soumaïla Cissé, qui n'a pas pu obtenir le soutien de Aliou Diallo et de Cheikh Modibo Diarra, arrivé respectivement 3e et 4e au premier tour, croit toujours en ses chances. On peut encore gagner, tout dépend de vous. Les compteurs sont à zéro, a-t-il dit ce matin à son QG de campagne, entouré de ses militants et de candidats ralliés à sa cause. Crédité de 17,8% au premier tour, il avait décrié des fraudes massives et demandé la démission du ministre de l'administration territoriale en charge de l'organisation des élections. Le gouvernement a reconnu que près de 250 000 électeurs n'ont pas été en mesure de voter dans les régions touchées par l'insécurité dans le nord et le centre du pays, mais a rejeté toute manipulation des résultats.
Le Niger fait face à une nouvelle épidémie de choléra qui s'est déclarée dans le district sanitaire de Madarounfa et s'est étendue au district de Maradi, au sud du pays. 993 cas ont été enregistrés pour 13 décès selon le Bureau de coordination des actions humanitaires de l'ONU. Précision avec notre correspondant Abdoulrazak Idrissa.
Les premiers cas ont été confirmés par les autorités sanitaires du pays en début du mois de juillet. Le nombre a ensuite évolué, avoisinant le millier selon OCHA, qui parle aussi de 13 décès. Joint au téléphone par VOA Afrique depuis Madarumfa où sévit la maladie, le ministre de la Santé indique que la majorité des cas enregistrés et des décès proviennent du Nigeria voisin. Docteur Idi Iliassou Menassara.
Les premiers cas nigériens ont commencé à être enregistrés aux environs de 10-11, mais pratiquement c'est des cas importés qu'on gérait. Comme vraiment la prise en charge des phénomènes est universelle, quelle que soit la provenance du cas, notre devoir c'est de les prendre en charge. Et à la date d'aujourd'hui, je t'ai dit, on est à près de 800 cas et 11, malheureusement 11 décès. Les 8 décès là viennent du Nigeria, les 3 sont des Nigériens.
Dernière grande épidémie de choléra que le Niger a connue remonte à 2012 où près de 5300 cas ont été enregistrés. Celle de cette année intervient à un moment propice pour sa propagation avec les inondations dues aux précipitations. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
Au Zimbabwe, l'investiture d'Emmerson Mnangagwa, vainqueur de la présidentielle du 30 juillet, selon les résultats officiels, est suspendue jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle, saisie par l'opposition, rende une décision. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Justice, Nathalie Barge.
L'opposition a attendu la date butoir de ce vendredi pour déposer son recours contestant le scrutin remporté par Emmerson Mnangagwa devant le leader du MDC, Nelson Chamisa. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher. L'investiture du président Mnangagwa, qui était prévue dimanche, a été repoussée à une date ultérieure. Par ailleurs, l'opposant Tendai Biti a comparu ce vendredi devant un tribunal de Harare. Il a obtenu une remise en liberté sous caution au lendemain de son expulsion de la Zambie, où il a tenté de demander l'asile politique. Ses avocats souhaitent que le parquet abandonne les poursuites contre lui pour proclamation illégale de résultats électoraux et violence sur la voie publique. Les audiences à ce procès se poursuivront mercredi.
Soudan, le parti au pouvoir a désigné l'actuel chef de l'État, Omar El-Béchir, candidat à la présidentielle de 2020 pour un troisième mandat. La constitution soudanaise ainsi que la charte du parti au pouvoir limitent pourtant à deux les mandats présidentiels. Soudan du Sud, les bailleurs internationaux se sont déclarés préoccupés par l'accord de partage du pouvoir signé dimanche par les dirigeants de ce pays ravagé par la guerre civile, le jugeant peu réaliste. L'accord prévoit un retour à son poste de l'ancien vice-président Riek Machar, rival du président Salva Kiir dans un gouvernement d'unité nationale. Dans le sud du Nigeria, des braqueurs armés ont tué au moins 10 personnes, dont un policier, pendant une attaque dans un poste de police et deux banques à Igara, dans l'état d'Edo.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les échanges de tirs ont duré plusieurs heures à Ghazni, chef-lieu de la province du même nom au sud de Kaboul, assailli dans la nuit par des talibans dont la présence met à mal le quotidien de la population. Ekabadou.
Ghazni est brièvement tombé entre les mains des talibans près de 3 mois après Farah, qui a été aussi reprise par l'armée. Selon le chef de la police locale, Farid Ahmad Marshall, les combattants talibans ont lancé leur assaut la nuit dernière contre les barrages de sécurité autour de la ville. L'électricité a été aussitôt coupée. Ils ont progressé en ville, tirant plusieurs obus de mortier, selon le porte-parole du gouvernement provincial, Arif Nouri. Les forces américaines ont riposté avec des hélicoptères, des drones et ont mené des raids pour les déloger. Des témoins disent avoir entendu des tirs venant de plusieurs directions. Les soldats américains venus en appui aux forces afghanes affirment que les combats ont cessé à 3h30 en temps universel. Selon un responsable de l'hôpital de la ville, il y a eu au moins 16 morts, dont 14 soldats et 35 blessés. Pour l'analyste Haroun Mir, les talibans veulent faire pression sur le gouvernement pour entamer des négociations en position de force.
Fusillade au Canada, un suspect a été arrêté ce matin après avoir tué au moins 4 personnes dans la ville de Fredericton, dans le Nouveau-Brunswick. Des témoins affirment avoir vu le canon d'une arme sortant de la fenêtre d'un immeuble tirant en direction d'une cour. 29 enfants tués dans des frappes aériennes à Dayan au Yémen. Le bombardement qui a touché un bus scolaire est attribué à la coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite qui intervient en soutien aux forces gouvernementales contre les rebelles houthis. L'ONU et Washington appellent à une enquête rapide sur ce carnage. Dans le nord de la Syrie, au moins 14 civils ont été tués, des dizaines blessés aujourd'hui dans des frappes aériennes sur la localité rebelle d'Orun al-Kubra dans la province d'Alep. Un bilan donné par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, sans préciser si ces frappes ont été menées par l'aviation du régime syrien ou de son allié russe. Proche-Orient, deux Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza par des tirs de soldats israéliens. Violences qui se sont produites lors de manifestations et dehors le long de la barrière de séparation. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco avec Etia Badou.
Le dispositif de soutien au financement des PME et PMI dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a été lancé jeudi à Abidjan. Piloté par la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ce dispositif vise à créer un grand nombre de PME performantes en vue d'augmenter la contribution de ces entreprises à la création de richesses et la lutte contre le chômage. La BAD, Banque africaine de développement, octroie 41 milliards de francs CFA au Gabon dans le cadre de la diversification de l'économie. L'institution financière panafricaine a déjà octroyé un prêt de plus de 62 millions d'euros, soit environ 41 milliards 200 millions de francs CFA, à l'État gabonais pour financer le projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise. La société de transport estonienne Taxify, concurrente de l'américain Uber sur les marchés émergents, met le cap sur les pays d'Afrique de l'Est. La compagnie de taxi se targue d'avoir des centaines de milliers de conducteurs en Afrique subsaharienne, dont près d'un tiers en Afrique de l'Est. Elle a annoncé des investissements de plusieurs millions de dollars dans la région dans les 5 prochaines années, en misant sur les pousses-pousses, les motos et autres moyens de transport spécifiques à l'Afrique.
Et on enchaîne sur les sports avec Bagatti Koura. Bonsoir Bagatti.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
C'est reparti ce soir pour la première ligue en Angleterre et la Ligue 1 en France.
Oui, avec à l'ouverture dès ce soir en Angleterre un certain Manchester United face à Leicester. Quant au champion anglais en titre, Manchester City lance sa campagne dimanche à 15h temps universel contre le mystérieux Arsenal, passé cet été sous l'ère Unai Emery après plus de 20 ans avec Arsène Wenger. En France, c'est Marseille qui ouvre le bal ce soir en accueillant Toulouse. 6 rencontres sont au programme ce samedi, dont un certain Nantes-Monaco. Le champion en titre PSG jouera dimanche à domicile contre Caen.
Lionel Messi, capitaine de Barcelone cette saison.
Oui, c'est la suite au départ d'Iniesta au Japon, alors que Sergio Busquets et Gérard Piqué seront respectivement numéro 2 et numéro 3, a indiqué vendredi le Barça sur son site officiel. Lionel Messi entraînera ses galons de capitaine dès dimanche soir face à Séville pour la Super Coupe d'Espagne disputée à Tanger au Maroc.
Foot, corruption, le président de la fédération zambienne suspendu 2 ans.
Oui, Kalusha Boalia, ancien meilleur joueur africain, a été suspendu 2 ans par la commission d'éthique de la FIFA pour corruption. C'est ce qu'a annoncé vendredi la Fédération internationale de football. Kalusha Boalia, âgé de 54 ans, légende du foot zambien, ancien joueur du PSV Eindhoven aux Pays-Bas et Ballon d'Or africain en 1988, a été élu en 2008 à la présidence de la FAS et est membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. En février 2017, la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FIFA avait ouvert une enquête à son encontre pour un paiement de 80 000 dollars reçu de l'homme d'affaires qatari Mohamed Bin Hammam.
Un attaquant nigérian se cache de son club de football en Lettonie.
Oui, Adeleke Akinola Akinyemi déclare être sain et sauf dans une interview publiée aujourd'hui et explique avoir pris le maquis pour un problème de contrat. Le club FK Ventspils a révélé ce mercredi que le joueur âgé de 19 ans avait disparu de chez lui, invoquant la possibilité d'une affaire criminelle.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Congo-Brazzaville, les autorités essaient de trouver un dénouement à l'amiable avec les parents des 13 jeunes tués le mois dernier dans un commissariat de police de Brazzaville. Pour revenir sur ce drame, Idriss Fall a joint Jean-Noël Mabiala, président du Mouvement Unitaire pour la République, une association qui organise ce soir à Paris un téléthon pour soutenir les familles des victimes.
Ce qu'on sait, entre le 22 et le 23 juillet, plusieurs jeunes ont été raflés, je pèse bien mes termes, raflés dans plusieurs quartiers, notamment les quartiers nord de Brazzaville, incarcérés dans un premier commissariat, déportés dans un autre commissariat, notamment celui de Chakona, qui est dans le quartier Mfila, le quartier résidentiel de M. Sassou, pour décrire un peu la situation géographique. Et dans ce commissariat, entre le 22 et le 23 juillet, ces jeunes ont été tués. Dans un premier temps, les autorités ont d'abord nié les faits. Finalement, ils ont fini par reconnaître qu'il y a bien eu des jeunes qui ont été tués. La première explication pour eux, c'est la suite d'une bagarre entre bandes. Après, on nous dit que, ah non, c'est des jeunes qui faisaient partie d'un groupe de jeunes qui sèment la terreur dans Brazzaville qu'on appelle les bébés noirs. Donc voilà les explications officielles du pouvoir. Mais le fait est qu'il y a eu rafle, torture et exécution sommaire de 13 jeunes, c'est le nombre que les autorités reconnaissent. On n'a pas encore la liste définitive. Et les autorités eux-mêmes disent qu'il y avait déjà une vingtaine qui avaient été raflées.
Aussi, pour dédommager les familles des victimes, l'État semble reconnaître les faits et offre quand même quelques millions de francs CFA, c'est ça?
C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit que l'État a fini par rencontrer les familles éprouvées. Il leur a proposé apparemment deux choses. La première, c'est qu'ils se taisent, qui ne cherchent pas la vérité, qui ne cherchent pas à savoir dans quelles conditions leurs enfants ont été arrêtés, dans quelles conditions ils ont été tués. Donc ça, c'est la première chose que l'État leur demande. Et la deuxième chose, il leur promet des indemnisations. C'est ce qu'on a pris. Les échanges que l'État a avec les familles, l'État met à l'écart, exclut les associations de la société civile, les associations de protection de défense des droits de l'homme, pour que les affaires se passent en huis clos.
Vous, à Paris, vous organisez une veillée et en même temps une journée de solidarité avec ces jeunes tués dans un commissariat de Brazzaville.
Tout à fait. On organise aujourd'hui un événement qui est le point de départ d'une série d'actions. Et le but pour nous, il est simple, c'est d'abord faire en sorte que l'information soit relayée, qu'on dise que c'est pas fini, qu'on ne tourne pas la page aussi facilement, puisqu'on n'a pas encore la vérité sur ce qui s'est passé. Et ce qui est marquant dans l'action que nous envisageons, c'est manifester la solidarité de toute la communauté congolaise. C'est la première fois qu'un meurtre de ce genre se produit dans l'enceinte de la police. La communauté congolaise doit se mobiliser pour marquer la solidarité avec les familles éprouvées.
Jean-Noël Mabiala, président du Mouvement Unitaire pour la République, une association de la société civile du Congo-Brazzaville.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Cap sur le Mali, le second tour de la présidentielle, c'est ce dimanche. Dernière ligne droite pour Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, les deux finalistes. Les candidats malheureux du premier tour ont de leur côté donné leur consigne de vote. Le pouls sur place avec Kassim Traoré.
Les habitants de la capitale malienne se préparent pour le second tour de la présidentielle.
Je suis Abdou Sissoko, enseignant à Niamakoro. Le fait que depuis le préparatif, tout le monde a accepté vraiment les conditions dans lesquelles on doit aller aux élections. Ce qu'on demande seulement, c'est la bonne organisation. Parce qu'une organisation n'a jamais été parfaite, hein, mais au moins que ça soit acceptable.
Le fait que le faiseur de roi n'a pas donné de consigne de vote s'explique, selon Bianson Dambélé, fonctionnaire.
Selon moi, le fait que les faiseurs de roi, entre guillemets, il s'agit de Abou Diallo et Cheikh Modibo, le fait que ces deux candidats ne se sont pas prononcés ou n'ont pas donné de consigne de vote à leurs militants, ça ne surprend pas parce qu'en réalité, aujourd'hui, sur la scène politique malienne, personne, aucun candidat ne peut prévaloir dire qu'il a vraiment un électorat acquis à sa volonté.
La question du ralliement des candidats a défavorisé Soumaïla Cissé, selon Djakaridja Sangari.
Non, je vois déjà Soumaïla a été déjà relâché. Quand vous prenez Diallo, ADP, Maliba, donc ils étaient ensemble, ils n'ont pas donné Sadré une position claire. C'est une trahison. Pour le cas de la mouvance présidentielle, déjà la balle est dans leur camp. Sorti déjà au premier tour, votre opposant a déjà été lâché par ses premiers soutiens. RPM et ses alliés par favoriser l'élection.
Certains partis de la coalition Cheikh Modibo Diarra appellent à voter pour Ibrahim Boubacar Keïta. Des déclarations qui sont contradictoires. Maman Mariko, membre de la coalition Cheikh Modibo Diarra.
Non, je ne pense pas que ce soit bon de les appeler déclarations contradictoires. Le candidat a bel et bien dit que je vous retourne aux honneurs et votre dignité pour m'avoir accompagné sans un franc. Mais par rapport à ce que j'ai pris comme engagement avec vous, je ne saurais vous emmener à aller ni à gauche ni à droite. Restons ensemble, réfléchissons Mali, pensons Mali, faisons tout pour que ce pays ne chavire pas.
Pour ce qui est des questions sécuritaires, des dispositions ont été prises afin que le scrutin puisse se dérouler dans les 767 bureaux de vote. Aujourd'hui, à Bamako, les deux candidats en lice, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, sont en train de faire des activités de part et d'autre dans la capitale malienne. Une caravane, un grand meeting de clôture, mais aussi des messages sur les radios privées. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Niger, les premières inondations de la saison des pluies ont occasionné une vingtaine de décès et d'importants dégâts matériels. Les services de la météo annoncent une accentuation de la pluviométrie dans les prochains jours, ce qui inquiète les populations. Reportage d'Abdoul Razak Idrissa, le correspondant de VOA Afrique au Niger.
À Niamey, ce sont 54 mm de pluie qui ont suffi pour occasionner les premières inondations depuis le début de cette campagne d'hivernage. Le village de Soudouré, à la périphérie de la capitale, a été le plus touché. Seydou Amadou, habitant de ce village, explique qu'ils ont été surpris par les eaux dans leur maison aux environs de 4 heures du matin. Il a tout perdu et demande l'aide des autorités. Lesquelles autorités se sont rendues sur les lieux pour constater les dégâts, mais aussi voir les possibilités de solutionner le problème à l'origine de l'inondation de ce village, à savoir un ouvrage récemment construit et qui a obstrué le passage d'un courrier. Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur.
Il y a eu un ouvrage qui a été construit, indique qu'il bloque le passage de l'eau tout simplement et le reflux, là également, entre dans les habitations et rend la vie désagréable. Il y a quelque chose d'extrêmement urgent à faire du côté du centre d'instruction de Tondibia, c'est de prévoir un dispositif qui permette que l'eau continue plutôt qu'elle soit bloquée, qu'elle reflue et qu'elle entre dans les habitations. C'est le premier constat que nous faisons. C'est une mesure urgente à devoir prendre, à devoir envisager par la société Satom qui a construit cet ouvrage. Il y a une erreur dans la conception de cet ouvrage à ce niveau-là.
Le bilan de ces inondations à l'échelle nationale a été dressé deux jours après par le ministre en charge de l'action humanitaire, Lawan Magaji.
Nous avons 49 845 sinistrés pour 6146 ménages. Nous avons malheureusement enregistré 22 décès. Nous avons également 26 344 têtes de petits ruminants et gros ruminants qui sont décimés. 3131 maisons effondrées. 3 902 hectares de clôtures inondées, 11 classes et 33 puits effondrés.
Le Bureau de coordination des actions humanitaires de l'ONU avait prévenu de forts risques d'inondation cette année au Niger et déjà les services de la météorologie prévoient dans les jours à venir d'autres importantes quantités de pluie. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, on termine en musique avant de se quitter. DJ Nixon, You Want to Know. C'est la fin de cette édition, la mise en onde d'un Cheikh Tiro, Morgan Iriac à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Face aux attaques néfastes et continues émanant de la Russie, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a annoncé des sanctions additionnelles contre 19 individus et entités russes pour une série d'activités déstabilisatrices, y compris l'ingérence dans les élections américaines de 2016 et une série de cyberattaques destructives. Dans une déclaration écrite, le département du Trésor a relevé que l'une de ces actions, l'attaque NotPetya, attribuée par les États-Unis et le Royaume-Uni à l'armée russe, était la plus destructive et la plus coûteuse de l'histoire. Elle a causé des milliards de dollars de dommages à travers l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Selon le département du Trésor, depuis au moins mars 2016, les cyberacteurs gouvernementaux russes ont également pris pour cible des entités gouvernementales américaines et de nombreux secteurs, y compris des installations énergétiques, nucléaires, commerciales et des systèmes d'adduction d'eau, les secteurs aéronautiques et manufacturiers critiques. Les sanctions imposées par le Trésor américain gèlent les biens dont disposaient les personnes et entités visées et qui seraient sous la juridiction des États-Unis. Et par ailleurs, elles interdisent à tout ressortissant américain de conduire des affaires avec eux. Le département du Trésor a relevé qu'en plus des cyberactivités néfastes de la Russie, les États-Unis continuent de faire pression sur ce pays pour ses efforts en vue de déstabiliser l'Ukraine, occuper la Crimée, s'ingérer dans les élections, de même que sa corruption endémique et ses violations des droits humains. Le département du Trésor a ajouté que la récente utilisation de gaz énervant dans une tentative d'assassiner deux citoyens britanniques illustre encore plus le comportement cavalier et irresponsable du gouvernement russe. Sous le président Trump, les États-Unis ont imposé des sanctions à plus de 100 individus et entités en rapport avec les dossiers ukrainiens et russes. Et ces sanctions, a fait savoir le département du Trésor, s'ajoutent aux efforts du département contre les activités déstabilisatrices et menant de la Russie, y compris les sanctions contre des Russes en rapport avec la Corée du Nord, le programme mondial Magnitsky et la loi Sergueï Magnitsky. À l'annonce le 15 mars des nouvelles sanctions contre les individus et entités russes, la question a été posée à la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, de savoir si la Russie était une amie ou une ennemie des États-Unis. Ils devront décider s'ils veulent être des bons ou des mauvais acteurs, a-t-elle répondu. Je pense que vous pouvez voir, à travers les actions que nous avons initiées jusqu'ici, que nous attendons afficher notre fermeté vis-à-vis de la Russie, jusqu'à ce qu'elle change d'attitude.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.